Il y a un Jean-Marc, un regard décalé, là, je pense.
D'abord, merci à l'université, merci à l'UT de nous accueillir et de donner la parole, voilà, puis d'inviter des gens qui sont d'une richesse incroyable. Hein. Merci de ça. Oui, je suis assez triste d'entendre ce que vous dites par rapport au théâtre. Voilà, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de alors on va dire diversité ou créativité qui va disparaître avec ça aussi. Alors après on a toujours un bon mot, hein, vous savez, c'est ça aussi. Il y a un proverbe qui dit quand on meurt riche, hein, c'est qu'on a raté sa vie. Enfin, riche dans le sens qu'on n'a pas, on a plein d'argent. C'est-à-dire qu'on a passé son temps à gagner de l'argent et pas. On parle d'autres richesses, hein, là, bien sûr. Et puis, sur ce que vous avez dit, je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est comment, à travers tout ce qu'on apprend, on arrive à cheminer. Je crois que c'est l'art du cheminement. Vous avez dit, le théâtre permet de montrer l'homme en train de cheminer. Je crois que c'est ça l'idée. Et à travers ce que vous dites aussi, quels sont les éléments qui nous permettent de cheminer à travers ça. Je voudrais illustrer ça alors, de façon très concrète. Par rapport au concours qu'on a organisé avec l'UIT sur les objets connectés. Et vous allez voir, on peut en venir. Et donc on avait exprimé le principe du concours. En fait, c'était d'imaginer le principe d'un objet connecté, mais aussi son mode. C'est marrant qu'on parle de ça. Comment on peut le rentabiliser, voilà. Quelles applications et usages. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est. On n'invente pas des objets sans rentabilité derrière, on n'a pas de projet sans rentabilité derrière. Après, voilà, ça peut être aussi stimulant de penser ça. Mais ce n'est pas l'objet des choses. Donc, les étudiants arrivent, les étudiants de l'UT, pour certains, arrivent dans l'entreprise. Et puis, je commence à leur dire ben, vous savez, oui, mais les objets connectés, aujourd'hui, il y a quand même des risques qui sont importants, qui sont liés au piratage, en fait, des objets par. On l'a vu dans la presse là-dessus. Et je vois une étudiante qui est un petit peu interloquée là-dessus en disant ben oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire. Puis je lui dis non seulement les objets vont être piratés, mais vous en allez avoir de plus en plus partout, c'est-à-dire dans votre vie, les téléphones, mais aussi dans les bouteilles. Enfin, vous allez pouvoir être complètement pisté à chaque instant. Et elle me dit, mais alors, c'est la technologie qui va nous soumettre, en fait. Et là, je me suis dit, oui, là, il y a quelque chose qu'on est en train de louper avec notre jeunesse. Qu'à un moment donné, nous, on a ce bagage encore, enfin, vous deux, beaucoup plus que moi, et vous aussi, c'est ce bagage d'humanité qui nous permet de comprendre et de mettre en situation un certain nombre de choses, de représenter, et naviguer à travers ces représentations. Mais je crois que le problème d'aujourd'hui, c'est que la technologie a remplacé les capacités d'interprétation de cette technologie même. C'est-à-dire que la technologie a balayé le recul nécessaire à cette prise en compte de la technologie. Et du coup, nous, on pense que la jeunesse est armée pour pouvoir le faire. Et je crois que le grand danger, c'est aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout armée. Elle n'a pas ce... de moins en moins cette capacité à pouvoir mettre à distance et à comprendre quels impacts peuvent avoir les nouvelles technologies sur la vie quotidienne et les dangers que ça représente. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui à remettre de l'humanité, peut-être que certains étudiants l'ont compris d'ailleurs justement, en disant on va essayer d'aller chercher dans les sources ultimes pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe en termes de technologie. Enfin, les étudiants sont là, ils pourront réagir là-dessus. Hein. Mais je pense que notre vision est un peu erronée parce que je pense que nous, on a encore cette partie de pouvoir comprendre ces interprétations-là et pouvoir naviguer à travers ces représentations et ne pas être soumis à la nécessité, mais aussi comprendre que toute organisation, tout dispositif, est aussi interprétable et on peut naviguer avec ça. Et je crois qu'il faut remettre les humanités en, en premier lieu, parce qu'il n'y a que elles qui peuvent nous permettre de naviguer justement dans ce monde-là, et c'est pas la technologie qui nous aidera justement à naviguer dans ce monde-là elle-même. Voilà, c'est une réflexion que je ne pensais pas avoir, et c'est justement en confrontant en fait, en étant un peu un homme frontière, comme vous êtes, en fait, hein, on parle du langage, qui est un peu le frontière entre différentes représentations, différents groupes de personnes. C'est ça l'idée de créativité et territoire, d'ailleurs, c'est de pouvoir retraduire et traduire et retraduire, être un petit peu là, être dans un domaine industriel. Alors, pour le coup, je parle de moi, je suis dans un domaine industriel, on parle des pièces, pour ceux qui ne savent pas, à Châtellerault, dans le domaine de l'aéronautique et automobile. Et en plus de ça, on a une volonté de s'inscrire dans un temps qui est un petit peu différent, qui est celui de la fabrication de pièces et la fabrication de l'humanité qui fabrique des pièces depuis l'aube des temps. Et l'idée, c'est d'avoir ces deux regards-là, et pour les éclairer, justement, on a fait appel donc, à un directeur culturel qui nous a expliqué pourquoi les bols sont devenus avec des fonds plats. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Donc on a fait une visite de l'entreprise avec un historien. Vous savez pourquoi les bols, ils ont les fonds plats maintenant ? Parce qu'on a inventé les tables, tout simplement. Et qu'avant, ça roulait. Et donc, on mettait ça dans la terre. Et donc, on n'avait pas besoin de fonds plats. Et à partir de ce moment-là, on a transformé un peu les objets. Les objets ont accompagné, en fait, la civilisation et la représentation. Pourquoi on a inventé les mâles et les armoires aussi ? Parce que quand avant, comme il y avait des invasions, on était plutôt sur des mâles, et puis les armoires, c'est qu'on a commencé à pouvoir s'installer sans les jeunes. Donc voilà, nous, on a donné ces regards-là à travers l'histoire, en disant que la fabrication d'objets a accompagné aussi l'humanité, et fabriquer des objets, c'est aussi construire un peu l'humanité. C'est notre projet, et on a besoin donc d'autres regards, on a besoin d'humanité pour pouvoir comprendre d'où on vient et ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, dans l'entreprise, il y a trois principes, parce qu'on essaie de cheminer entre ces trois principes, hein, c'est ça l'idée. C'est une nécessité, hein, pour les gens de venir et de gagner leur vie. On peut pas... Ils ont des familles à nourrir, des projets, donc ils ont besoin de gagner de l'argent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi un rôle social. Hein. L'entreprise, c'est un lieu social. On ne dirait pas, mais c'est qu'il y a des choses qui se passent, des relations qui se passent. On parle beaucoup alors d'entreprise libérée, des choses comme ça, pour réinventer des nouveaux modèles, ou enfin, des choses comme ça. Mais simplement, c'est aussi un lieu de vie sociale. Et je crois aussi qu'il y a de moins en moins de lieux, en fait, comme ça. C'est aussi... Ça disparaît. Hein. Je ne sais plus qui disait que vivre ensemble est un héroïsme, mais je crois que c'est ça. Hein. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on vit l'héroïsme au quotidien, c'est-à-dire on est obligé de se confronter aux autres. Et voilà. Et c'est plutôt riche. Et moi, une des richesses de mon entreprise, c'est qu'il y a des gens qui ont bac moins 6 et puis des gens qui ont bac plus 5. Voilà. Pour moi, je pense que c'est une vraie chance, en fait. Et que l'intelligence, il y a l'intelligence des bacs plus 5, mais aussi il y a l'intelligence des bacs moins 6, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, enfin, dans la mienne en particulier, la qualité, la fabrication des objets se fait aussi devant la machine. C'est-à-dire que si on impose tout en se disant, bah voilà, la machine va se comporter de cette façon, et toi, tu as juste à contrôler, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. C'est tellement complexe, hein, la mise en œuvre des machines, c'est qu'elle a besoin de l'intelligence humaine. Voilà. Et puis le troisième pan, en fait, de l'entreprise, c'est l'œuvre. Voilà. Et ça nous ramène à l'œuvre d'art et puis à l'œuvre en général. C'est l'œuvre collective, c'est-à-dire que les artistes, ils font une œuvre, ils sont identifiés à leur œuvre, et nous, on crée une œuvre commune qui sont des produits peut-être qui ne sont pas très, qui sont pas valorisés très cher sur le marché, mais n'empêche qu'ils ils sont réalisés par un concours d'intelligence, de moyens, d'équipement, de savoir. Et pour nous, on considère ça comme une œuvre collective. Voilà. Et après, est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est une œuvre collective. Et l'idée, c'est de dire avec des gens ordinaires, hein, comme moi, on arrive à faire des choses quand même plutôt extraordinaires. Ça, ça a été dit aussi. Par l'intelligence et la mobilisation de cette hétérogénéité d'intelligence de la rencontre entre des hommes et puis de la mise en œuvre de la matière. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les rencontres et les gens. Voilà. Je pense que dans mon entreprise, il y a une vraie humanité. C'est celle qu'on essaie de cultiver. Et merci de ces mots-là. Si vous avez des questions.